Hier se tenait la Grande Assemblée Générale des Nations Unies, on vous en parlait dans le journal, avec de nombreuses prises de parole, dont celle de Joe Biden et de Volodymyr Zelensky, entre autres. Quels sont les enjeux de ces discours? Une question à laquelle que vous avez posée à David Rigouleros, j'y arriverai, et lequel vous a répondu ceci.
David Rigouleros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky monte pour la première fois aujourd'hui à la tribune de l'ONU après un an et demi de guerre. Il entend faire une proposition concrète pour améliorer la capacité de l'organisation à arrêter l'organisation d'un État. Alors pour commencer, on a l'impression que le président ukrainien joue gros avec ce discours. C'est le cas selon vous, David Rigouleros?
Ah, c'est un discours important. L'année dernière, il avait bénéficié d'une intervention par visio, et là, c'est la première fois qu'il intervient in personam. Donc, c'est effectivement important. Il va passer après un certain nombre de chefs d'État, notamment le président brésilien Lula, Joe Biden, président Erdogan, et donc effectivement, son discours est quand même très attendu puisqu'il est censé, comme vous le disiez, présenter une proposition concrète justement pour améliorer la capacité de l'ONU à empêcher une agression, une violation de la charte de San Francisco et de l'intégrité territoriale des États. Il fait référence directement d'ailleurs au paragraphe 4 de l'article 2 de la charte de San Francisco, selon laquelle les membres de l'organisation sont censés s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière qui serait incompatible avec les buts pacifiques des Nations Unies. Donc c'est une initiative, il veut marquer effectivement il veut marquer un tournant justement dans sa communication dans le cadre de la grand-messe annuelle de l'ONU.
Vous l'avez dit, Lula, Erdogan, Joe Biden vont s'exprimer. Il faut s'attendre à ce que ce sommet tourne autour de la guerre en Ukraine?
Ah, en tout cas, on va beaucoup parler de la guerre en Ukraine. D'abord parce qu'effectivement, Lula va intervenir parmi les premiers. Il faut rappeler que les relations entre le président brésilien et le président Zelensky sont pas forcément les meilleures. Le Brésil a refusé d'appliquer les sanctions contre Moscou, et on peut se souvenir qu'il avait évoqué, il y avait un discours de Lula qui évoquait le fait de refuser de donner des armes parce que ça encouragerait la guerre, et qui plaidait pour une solution diplomatique justement au conflit. Et par ailleurs, il faut rappeler aussi que lors du G7 à Hiroshima en mai dernier, les hasards du calendrier ou pas avaient empêché une rencontre entre le président brésilien et le président Zelensky. Donc on voit bien que c'est effectivement important dans le cadre de l'ONU où le président Zelensky aura la possibilité de parler directement aux grands de ce monde.
Depuis le début de la guerre, les grosses réunions, les gros sommets de ce genre se soldent souvent par de nouvelles sanctions à la Russie et ou de nouvelles aides à l'Ukraine. On doit s'attendre à cela?
En tout cas, de toute façon, la question des sanctions, elle dépend exclusivement du Conseil de sécurité. Et on sait que le droit de veto des membres permanents, et notamment de la Russie, de toute façon, hypothèque des sanctions onusiennes, même s'il y a des sanctions, on va dire, de la part des États, de certains États membres. Et c'est d'autant plus important que le président Zelensky est censé être présent à une réunion demain du Conseil de sécurité qui sera précisément consacrée à la guerre et où il se retrouvera à la même table en présence du ministre Lavrov russe. Et on imagine que cette réunion se fera sous extrême tension.
Il se dit également que Volodymyr Zelensky pourrait plaider la cause de l'Ukraine auprès de ce qu'on appelle les États neutres. Ces États neutres peuvent-ils être un tournant dans cette guerre?
Alors, c'est probablement un des enjeux de son intervention justement cette année dans le cadre de la grand-messe annuelle, parce que c'est effectivement de se faire entendre de ce qu'on appelle un peu de manière un peu caricaturale le Sud global, c'est-à-dire tous ces pays qui ne se sont pas alignés sur les sanctions occidentales, qui n'ont pas pour autant forcément approuvé, effectivement, soutenu Moscou, mais qui sont hésitants pour un certain nombre de raisons, notamment qui ne veulent pas justement trop s'aligner sur les Occidentaux, à qui il reproche une logique de deux poids deux mesures selon les situations, et notamment parce qu'ils sont aussi soumis aux conséquences catastrophiques du conflit depuis un an et demi, notamment en termes alimentaires et énergétiques. Donc c'est précisément ces pays du Sud global que vise spécifiquement Zelensky pour essayer de les associer de manière plus ferme à une logique de sanctions contre Moscou.
On l'a évoqué au début de cet entretien, il va donc appeler à renforcer l'intégrité territoriale des États. Que comprendre par là? On parle donc de la charte de San Francisco dont vous parliez plus tôt.
Oui, il fait référence effectivement aux premiers articles de la charte. Après, la question de sa proposition, ça sera entre guillemets une surprise puisque rien n'a filtré, mais il veut insister sur cet aspect. Et d'ailleurs, ça fait écho au discours d'Antonio Guterres, hein, qui a initié les débats, où il ne peut que se désoler du monde fragmenté géopolitiquement actuel, et où il a rappelé que la guerre en Ukraine avait été initiée en violation caractérisée de la charte internationale. Donc c'est bien la question de cette intégrité territoriale et de la capacité à la protéger. Et d'ailleurs, c'est ce qui a filtré aussi des premiers éléments du discours de Joe Biden, où il insiste précisément sur cette question d'intégrité territoriale de n'importe quel État, et qu'elle doit être garantie, faute de quoi chaque État pourra se sentir menacé à terme.
Vous l'avez dit, demain il sera également au Conseil de sécurité, il y aura le ministre Lavrov. Doit-on s'attendre à ce que ces deux hommes se parlent? On a l'impression que depuis le début de la guerre, c'est Poutine ou rien.
Oui, c'est peu probable. On peut même se demander si Lavrov restera dans la salle au moment où interviendra d'ailleurs le président Zelensky. Ça sera justement une scénographie intéressante en termes de géopolitique mondiale. Mais en tout état de cause, de toute façon, l'action de Zelensky ne s'arrêtera pas là, parce qu'il doit rencontrer le lendemain Joe Biden justement pour pérenniser l'aide. Alors que les difficultés sur le terrain se sont manifestées ces dernières semaines, même si des avancées sont reconnues. Donc effectivement, c'est un séjour très chargé pour le président Zelensky.
Justement, c'était ma prochaine question. Dans la foulée, il se rendra à la Maison Blanche jeudi. On doit donc attendre des nouvelles aides de la part des États-Unis.
Bah, il y a déjà près de 77 milliards de dollars d'aide sous toute forme, et essentiellement d'aide à caractère militaire. Donc évidemment, l'aide américaine, elle est absolument déterminante. C'est ce qui a permis à l'Ukraine de ne pas être démembrée et de résister militairement. Et là, il y a un enjeu considérable, évidemment, dans la perspective les échéances de la future élection présidentielle de 2024, parce que on sait que le candidat opposé à celui qui se présentera vraisemblablement, à savoir Joe Biden, c'est un certain Donald Trump, qui lui a considéré que ça suffisait, qui pouvait d'ailleurs régler le conflit en 24 heures, mais surtout qui n'était pas sur la logique de soutien militaire avéré tel qu'il avait été défini par l'administration Biden.
Dans le cadre de ces grands rendez-vous, Benjamin Netanyahou va également rencontrer Joe Biden. Le président américain pourrait-il le faire changer d'avis sur l'aide apportée à Israël, à l'Ukraine, par Israël à l'Ukraine, pardon ?
C'est une question très sensible, parce que de toute façon, Washington sait très bien que Israël est pris dans un arbitrage d'impératifs sécuritaires stratégiques régionaux, à savoir que il y a un accord tacite avec Moscou, justement depuis longtemps, sur la possibilité de bombarder des cibles iraniennes ou pro-iraniennes en Syrie, et que ça passe évidemment par une discrétion et le refus jusqu'à présent d'une aide directe, en tout cas militaire, à destination de Kiev. Donc c'est très compliqué, même si évidemment ça n'empêche pas une solidarité de principe avec les Ukrainiens, mais la position d'Israël est très spécifique et très particulière et très compliquée vis-à-vis de ce conflit.
David Rigoulet-Rose, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique, ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci.